Au nom de la Société du Signe l'Informe du Canada, il me fait plaisir de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette conférence par web émission. Permettez-moi de me présenter, Carole Murphy, directrice des services aux patients pour la Société du chapitre de Montréal, qui dessert la région du Québec ainsi que le Canada Atlantique. Avant de vous présenter notre conférencière invitée de ce soir, il est nécessaire de prendre quelques minutes afin de vous transmettre certaines informations en lien avec l'événement. Une période de questions suivra la conférence du Dr. Luigina Monica. Toutes questions doivent être écrites dans le carré ainsi désigné, à droite, au bas de votre écran. Gardez en tête qu'il est possible que nous recevions plusieurs questions similaires. Dans ce cas, une question sera formulée et adressée à Dr. Monica. Il est important de ne pas oublier de remplir le questionnaire des services aux patients. Les réponses recueillies seront instrumentales dans le développement des services aux patients futurs. Maintenant, c'est avec grand plaisir que je vous présente Dr. Luigina Monica, hématologue-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dr. Monica a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Montréal en 1996. Une formation postdoctorale en médecine interne à l'Université de Montréal de 1996 à 1999. En hématologie à l'Université de Montréal de 1999 à 2001, en oncologie médicale à l'Université de Montréal de 2001 à 2002, en sciences expérimentales de l'Université of London, Imperial College, Grande-Bretagne de 2002 à 2006, sur le thème de la régularisation transcriptionnelle de l'expression du gène du récepteur endothélial de la protéine C. Dr. Monica compte à son actif plusieurs certifications et diplômes, licence du Conseil médical du Canada, associée du Collège royal des médecins du Canada en médecine interne, la FRCPC en hématologie, FRCPC en oncologie médicale, certificat de spécialisation de la province du Québec en médecine interne et en hématologie, maîtrise de philosophie à l'Université de London, Grande-Bretagne, doctorat en philosophie de l'Université de London en Grande-Bretagne. Elle a participé à plusieurs congrès depuis le début de sa formation. American Society of Clinical Oncology, American Society of Hematology, International Congress of Immunosuppression, Société québécoise de transplantation, Association des médecins hématologues oncologues du Québec, Canadian Society of Transplantation, American Transplant Society, International Society of Thrombosis and Hematosis, British Society of Hematosis and Thrombosis, Gordon Research, European School of Hematology and CML Conference, The Patient Journey in CML. Elle compte aussi à son activité, plusieurs activités scientifiques. Dr. Monica est détentrice de plusieurs bourses de formation et de recherche. Elle a obtenu plusieurs prix. Elle a été chargée de cours et enseigne annuellement. Elle a plusieurs présentations lors de réunions scientifiques, participation à des jurys de thèses et de mémoires, de travaux dirigés, d'examens de synthèse et autres à l'Université de Montréal. Elle a plusieurs participations à des projets de recherche, de bourses et de subventions. Dr. Monica a participé à plusieurs publications de recherche ou d'érudition, revues dotées de comités de pairs. Je vous présente maintenant Dr. Luigina Monica.
Bonsoir à tous. Alors, il me fait plaisir ce soir de parcourir avec vous le sujet de la leucémie myéloïde chronique. La présentation durera environ une heure. Nous parlerons d'abord de la maladie et ensuite des traitements. Les objectifs de la présentation seront de comprendre l'origine de cette maladie, la leucémie myéloïde chronique, de connaître son histoire naturelle, de se familiariser avec les traitements et de comprendre l'importance du monitoring. La leucémie myéloïde chronique, c'est une leucémie, donc c'est une maladie du sang. Parlons d'abord un peu du sang comme tel. Alors, le sang, on le sait, est constitué d'une partie liquide, le plasma, et de cellules. Parmi ces cellules, il y a des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Les globules rouges, ce sont les cellules qui transportent l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle, transporte l'oxygène. Les globules blancs, qu'on appelle leucocytes, c'est les cellules qui protègent contre les infections. Les plaquettes, ce sont des toutes petites cellules sanguines qui, elles, protègent contre les saignements, qui viennent se coller aux brèches vasculaires lorsqu'on a une lésion. Ces cellules du sang sont produites par la moelle osseuse. Chez l'adulte, la moelle osseuse se trouve essentiellement dans les os longs. Les patients chez qui on suspecte une leucémie myéloïde chronique nécessitent une aspiration et biopsie de moelle osseuse. Cet examen se fait généralement au niveau de la crête iliaque postérieure, c'est-à-dire au niveau du dos, parce que c'est un endroit où la moelle osseuse est relativement facile d'accès. On ponctionne donc avec une aiguille dans la crête iliaque et on aspire des cellules qu'on collecte, qu'on colore et qui donnent une image semblable à celle que vous voyez sur votre écran. L'analyse visuelle de ces cellules nous permet de diagnostiquer différentes maladies du sang, incluant la leucémie myéloïde chronique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la moelle osseuse? Eh bien, la moelle osseuse, c'est l'usine de production de toutes les cellules sanguines. Et la cellule mère qui donne naissance à toutes les cellules sanguines, c'est la cellule souche. La cellule souche est une formidable cellule qui est capable de donner naissance à toutes sortes de cellules du sang. La même cellule souche se divise en cellules filles et finit par donner toutes sortes de cellules sanguines, dont les érythrocytes, c'est-à-dire les globules rouges, des plaquettes, différents types de globules blancs que vous voyez sur votre écran comme étant des granulocytes, c'est des globules blancs qui peuvent être subdivisés en neutrophiles, éosinophiles, basophiles, ainsi que des lymphocytes qui sont d'autres types de globules blancs. Toutes ces cellules viennent de la même cellule qui est la cellule souche hématopoïétique qui est logée dans la moelle osseuse. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a peu de cellules souches. En fait, quelques milliers de cellules souches seulement, qui résident dans la moelle osseuse, sont suffisantes pour produire des milliards de milliards de cellules sanguines tous les jours pendant plus de 100 ans. En fait, pendant toute la vie de l'individu et un peu plus. La cellule souche a deux propriétés très intéressantes. Un, pour ne pas disparaître, elle doit faire une copie d'elle-même. Et deux, elle est capable de se différencier, ce qui permet à la même cellule de donner naissance à des cellules qui ont des vocations différentes, des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Donc, la cellule souche est capable de se différencier en différents types de cellules. Quand elle se divise, elle doit copier tout son bagage génétique, donc tous ses chromosomes, pour que sa progéniture ait le même bagage génétique qu'elle. En général, elle fait ça très bien. C'est pour ça que j'ai écrit que c'est presque parfait. Par contre, rarement, heureusement, elle commet des erreurs. Et si l'erreur qui survient dans la cellule souche nuit à la cellule fille qu'elle a produite, eh bien, la cellule fille peut disparaître. Par contre, si l'erreur donne un avantage de croissance à la cellule fille, eh bien, là, il y aura possiblement un cancer associé. Ici, une illustration simple d'une erreur qui peut causer un cancer. Alors, à la gauche de l'écran, il y a une illustration schématique de quatre cellules souches, une d'entre elles qui subit une erreur, c'est-à-dire un défaut dans son code génétique. Si ce défaut lui vaut un avantage de croissance, eh bien, cette cellule-là va proliférer, va donner naissance à beaucoup de cellules qui lui ressemblent, et ceci est anormal. Il peut donner naissance à une tumeur. Donc, dans la photo de droite, il y a beaucoup trop de représentants de la cellule en bleu et ceci occasionne une prolifération tumorale, c'est-à-dire un cancer. Alors, c'est quoi la leucémie myéloïde chronique? D'où elle part? Eh bien, on pense qu'elle part de la cellule souche elle-même, donc d'une cellule hématopoïétique, c'est-à-dire d'une cellule du sang très, très immature qui a le potentiel de donner naissance à toute sorte de cellules sanguines. La leucémie myéloïde chronique, c'est une néoplasie myéloproliférative. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un cancer du sang caractérisé par une prolifération accrue de différentes cellules du sang, principalement des globules blancs. En fait, dans le sang, des patients avec une leucémie myéloïde chronique, il y a généralement beaucoup trop de globules blancs et il y a aussi beaucoup trop de parents des globules blancs. Donc, il y a des globules blancs matures ainsi que des globules blancs un peu immatures qui se promènent dans le sang. Ils viennent de la moelle osseuse et dans la moelle osseuse, c'est généralement plein de ces cellules-là. L'erreur qui cause la leucémie myéloïde chronique maintenant. Alors, la cellule souche en division fait une mauvaise copie de ses chromosomes. C'est ça le nœud du problème dans la leucémie myéloïde chronique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une cassure sur le chromosome 9, une autre cassure sur le chromosome 22, et là, les morceaux se recollent ensemble, mais pas de façon correcte, de façon pas correcte. Et le recollage qui est anormal de ces bouts de chromosomes, c'est ça qui cause la leucémie myéloïde chronique. C'est ça qui change la vie de la cellule. On va le voir de façon schématique à la prochaine diapositive. Cette translocation, c'est-à-dire ce recollage de chromosomes anormal, entraîne la formation du chromosome de Philadelphie. Le chromosome de Philadelphie est appelé ainsi parce qu'il a été découvert en 1960 chez un patient qui était né à Philadelphie. Fait important, on ne sait pas pourquoi l'erreur, la mutation, arrive chez certaines personnes et pas d'autres. Alors, voici une illustration schématique du chromosome de Philadelphie, CH. C'est une translocation entre le chromosome 22 et le chromosome 9. Le T désigne une translocation. Le Q désigne le bras long du chromosome. Alors, à votre gauche, vous voyez le petit chromosome 22 normal. Le petit chromosome 22 normal contient un gène qui s'appelle le gène BCR. Vous voyez ensuite le chromosome 9 normal. Le chromosome 9 normal contient un gène qui s'appelle ABL pour Abelson. Ce sont deux gènes qui sont normaux. Lorsque la translocation survient dans la leucémie myéloïde chronique, c'est-à-dire que la cellule se divise et qu'elle réarrange ses chromosomes de façon anormale, eh bien, ce qui se passe, c'est que le chromosome 22 perd son bout distal qui va se rattacher au chromosome 9 et le bout d'ABL va s'attacher au bout de BCR. Donc, le tout petit chromosome Philadelphie que vous voyez à la droite, et la source du problème. Ce petit chromosome, il est anormal, il n'existe pas chez les individus normaux. Il contient un gène de fusion qui est anormal, qui n'existe pas normalement, qui s'appelle le gène BCR-ABL, parce qu'il y a deux gènes collés, BCR et ABL, ils ne sont pas collés de façon normale physiologique. Il y a aussi un chromosome 9, qui lui non plus n'est pas normal, il est beaucoup plus long que d'habitude. Alors, le chromosome Philadelphie, c'est le petit chromosome avec un BCR-ABL fusionné. Une autre illustration. Alors, on a le chromosome 9 avec le gène ABL, le chromosome 22 avec le gène BCR, ceci est normal. Après la translocation, le chromosome 9 devient plus long, il a hérité d'un petit bout du chromosome 22, et surtout, il y a la formation d'un petit chromosome qui s'appelle le chromosome Philadelphie, qui lui contient un gène de fusion BCR-ABL. Ce gène de fusion BCR-ABL entraîne une activité tyrosine kinase accrue. Alors, c'est quoi une tyrosine kinase? Eh bien, dans la division cellulaire normale nécessite la formation de phosphates. C'est ce que vous voyez en jaune. Le gène ABL normal, il est capable de former du phosphate. Il en forme suffisamment pour les nécessités de prolifération ou de division cellulaire normale. Le nouveau gène, BCR-ABL, code pour une protéine, donc entraîne la formation d'une protéine qui s'appelle BCR-ABL, qui elle est anormale, elle n'existe pas chez les individus normaux, et cette protéine-là, elle est particulièrement efficace pour la formation de phosphate. Donc, elle en fait plus. Donc, elle offre un avantage de croissance aux cellules qui contiennent cette protéine anormale. Et là est le nœud du problème de la LMC. Les cellules qui contiennent cette protéine anormale vont avoir un avantage de croissance, vont pousser plus, vont se diviser plus. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y en a trop. Vous voyez là une photo, un froissis sanguin. C'est-à-dire, on prend une goutte de sang, on l'étale sur une lame. Chez un individu normal, il y a des globules rouges. C'est ce que vous voyez en brunâtre, des petits points qui sont les plaquettes, puis quelques globules blancs, la grosse cellule dont vous voyez. Chez les patients avec une leucémie myéloïde chronique, eh bien, il y a beaucoup trop de globules blancs. Il y a beaucoup trop de globules blancs au niveau du sang, c'est ce qui est illustré ici. Il y en aurait encore plus si on avait montré une photo de la moelle osseuse. Donc, il y a une prolifération cellulaire anormale, principalement de globules blancs, parfois aussi de plaquettes et de globules rouges. Si on parle un peu d'épidémiologie, la leucémie myéloïde chronique peut arriver à n'importe quel âge. Il y a des enfants avec la leucémie myéloïde chronique et il y a des personnes très âgées avec la leucémie myéloïde chronique. Et en général, l'âge médian est autour de 50 ans. C'est une maladie qui est relativement rare, avec une incidence de 1 à 2 par 100 000 habitants par année. L'incidence augmente avec l'âge, de sorte que entre 12 et 30 % des patients ont plus de 60 ans au moment de leur diagnostic. C'est une maladie qui est un tout petit peu plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Voici des statistiques américaines qui illustrent l'incidence et la mortalité de la leucémie myéloïde chronique, appelée en anglais CML, Chronic Myeloid Leukemia. Ce qu'on voit, c'est qu'en matière d'incidence, la leucémie myéloïde chronique représente environ 11% des nouveaux cas de leucémie en Amérique du Nord. C'est pareil pour le Canada. Donc, c'est une incidence qui est relativement faible par rapport aux leucémies aiguës, les ALL et les AML. En matière de mortalité, le chiffre est heureusement encore plus petit. La leucémie myéloïde chronique, illustrée ici, a une mortalité d'environ 2% de toutes les leucémies. La raison pour laquelle l'incidence est plus élevée que la mortalité, c'est que heureusement, il y a des bons traitements pour la leucémie myéloïde chronique, de sorte que la majorité des patients se portent bien et les décès dans cette maladie sont rares. Comment se présentent les patients avec une leucémie myéloïde chronique? En fait, la présentation est fort variable. Il y a des patients qui ne savaient pas du tout qu'ils avaient une leucémie myéloïde chronique et c'est une découverte fortuite parce qu'ils ont une formule sanguine pour une autre raison et on se rend compte qu'ils ont trop de globules blancs. Par contre, pour la majorité des patients, il y a des symptômes qui sont frustrés et qui sont là depuis quelques mois au moins, sinon quelques années. Parmi les symptômes qu'on voit le plus souvent, il y a la fatigue. Il y a aussi la perte de poids, l'anorexie, une sensation d'être rassasié et d'avoir moins faim. Celle-ci est principalement attribuable au fait qu'il y a un organe qui s'appelle la rate qui augmente de volume. Alors, ça s'appelle une splénomégalie. Quand cet organe prend de la place dans l'abdomen, ça pèse sur l'estomac et les gens ont l'impression qu'ils ont moins faim. Ce sont des symptômes relativement fréquents chez des patients avec une leucémie myéloïde chronique. Au niveau des prises de sang, eh bien, à la formule sanguine, qui est l'examen de routine du sang, on note généralement une leucocytose, c'est-à-dire une augmentation des globules blancs. Bien souvent, il y a aussi une augmentation des plaquettes, c'est ce qu'on appelle la thrombocytose, et parfois, il y a une diminution des globules rouges, ça s'appelle une anémie. La raison de ça étant que la moelle osseuse est occupée à faire beaucoup de globules blancs et fait un petit peu moins de globules rouges. Il peut y avoir d'autres anomalies de laboratoire aussi, mais celles-là sont les plus fréquentes et, comme je disais, parfois, c'est juste sur la base des anomalies de laboratoire que le patient est référé pour considération d'une leucémie myéloïde chronique, même avant l'apparition des symptômes cliniques. La leucémie myéloïde chronique est une maladie assez hétérogène. Il y a différentes phases à la maladie. La première phase, c'est la phase chronique. C'est la phase la plus tranquille. Elle dure quelques années. La durée médiane est autour de 5 ans. Par contre, si une leucémie myéloïde chronique est laissée à elle-même, elle ne restera pas toujours en leucémie myéloïde chronique, en phase chronique. Elle va se transformer en des phases plus agressives, ultimement en une leucémie aiguë. Les phases plus avancées sont appelées la phase accélérée et la phase blastique. La phase accélérée dure généralement de 6 à 9 mois. La crise blastique ou la phase blastique dure pas longtemps parce que les patients décèdent à moins de traitements spécifiques. Donc, la majorité des patients qui ont une leucémie myéloïde chronique se présentent heureusement en phase chronique, qui est la phase la plus quiescente de la maladie, et c'est eux qui ont le meilleur pronostic. Les patients avec une leucémie myéloïde chronique pris à une phase plus avancée, c'est-à-dire à une phase accélérée ou une phase blastique, se voient offrir des traitements, mais leur pronostic est un peu moins bon. Comment fait-on pour faire la part entre chacune de ces phases? Eh bien, le principal outil, c'est la moelle osseuse. C'est l'examen de la moelle osseuse. C'est pour ça que si on suspecte une leucémie myéloïde chronique, il est crucial de faire un examen de la moelle osseuse, l'aspiration et biopsie médulaire, parce que c'est en analysant les cellules de la moelle osseuse qu'on est capable de se prononcer sur quelle phase est la maladie. Notamment, les blastes, donc la quantité de cellules leucémiques dans la moelle osseuse est un indice très important. Les patients qui ont, par exemple, plus de 15% de blastes, ben, ne sont pas en phase chronique, ils sont dans des phases plus avancées. Donc, l'examen de la moelle osseuse est crucial pour déterminer quelle phase est la maladie. Parfois, on peut avoir d'autres indices aussi, la quantité de globules blancs, la quantité de plaquettes. Donc, il y a différents indices au niveau du sang qui peuvent donner une idée, mais ultimement, la phase de la leucémie myéloïde chronique nécessite un examen médulaire. Abordons maintenant le grand chapitre des traitements. Heureusement, il y en a plusieurs. La greffe de moelle osseuse ou la greffe de cellules souches hématopoïétiques demeure le seul traitement curatif de cette maladie. Nous allons en parler plus en détail. L'interféron alpha est un traitement qui était utilisé il y a plusieurs années, mais qui maintenant est utilisé seulement dans des contextes très particuliers, comme on va voir. Les nouveaux médicaments dans la leucémie myéloïde chronique sont des inhibiteurs des tyrosines kinases. Nous allons en parler plus extensivement. Le premier de ces médicaments-là, c'est l'imatinib, aussi appelé Glivec. Les nouveaux venus sont le nilotinib, aussi appelé Tasinga, le dasatinib, aussi appelé Spricel, et le bosutinib. Le bosutinib n'étant pas facilement accessible au Canada, nous allons surtout nous concentrer sur les trois premiers. Commençons par parler de la greffe. Alors, la greffe de moelle osseuse ou la greffe de CSH hématopoïétique peut se faire de deux façons, essentiellement. Elle peut se faire à partir de cellules souches prélevées directement dans la moelle osseuse, BM étant pour bone marrow ou moelle osseuse, ou de cellules souches prélevées dans le sang périphérique, PBSC pour peripheral blood stem cells. Donc, la source de cellules souches peut varier d'un individu à l'autre. Les résultats varient aussi un peu. Sur cette diapositive, vous voyez la survie des patients qui ont une leucémie myéloïde chronique en phase chronique, donc la première phase, qui ont été transplantés avec un donneur familial apparenté et qui ont été transplantés soit avec des cellules de moelle osseuse ou des cellules du sang périphérique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de patients, plus de 70%, qui ont des taux de survie à long terme après la greffe. Donc, ça demeure un bon traitement. Par contre, vous voyez à votre gauche que les courbes descendent pas mal au tout départ. Ceci est attribuable au fait qu'il y a des décès attribuables à la greffe assez précocement. Donc, une complication assez rapide de la greffe, une complication potentielle, c'est qu'il y a une partie des patients qu'on soumettra à une greffe qui vont malheureusement décéder des complications précoces de la greffe. L'autre chose, c'est que parmi les patients qui se portent bien, c'est-à-dire qui n'ont plus de leucémie myéloïde chronique après qu'ils ont été greffés, ben, plusieurs d'entre eux vont malheureusement avoir des effets secondaires de la greffe, même s'ils n'ont plus d'effets secondaires de leur maladie. Parmi les effets secondaires, il y a la réaction du greffon contre l'autre qui peut atteindre jusqu'à 30% des patients qui ont eu une greffe par cellules souches périphériques. Alors, la greffe de cellules souches est une option chez des patients qui ont un bon donneur. C'est une option qui permet de guérir la maladie dans à peu près 70% des patients. Par contre, elle n'est pas banale parce qu'elle est associée à des complications de mortalité précoce et aussi des complications à long terme. Donc, ce n'est pas une option qui est intéressante pour tous les patients. Les patients qui n'ont pas de donneur familial, c'est encore un peu pire dans le sens que la greffe est plus risquée chez eux. Ici, un schéma montrant la survie après transplantation selon différents groupes d'âge pour des patients qui ont eu une greffe d'un donneur non apparenté, donc de quelqu'un qui ne fait pas partie de leur famille, mais qui est apparenté à eux génétiquement. Alors, les résultats sont moins bons. Aussi, les résultats de la greffe chez des patients greffés pour une leucémie myéloïde chronique qui n'est pas en phase chronique, donc qui serait en phase avancée, sont moins bons que ceux obtenus en phase chronique. À la lumière de tout ça, que peut-on dire de la place de la greffe de cellules souches en 2010? Eh bien, on peut dire que pour des patients qui sont avec une leucémie myéloïde chronique en phase chronique, ce n'est généralement pas l'option de choix, certainement pas en première ligne. Ceci à cause des risques associés à la greffe et à cause de l'efficacité des inhibiteurs des tyrosines kinases, comme on peut voir. Donc, la greffe est généralement réservée aux patients qui répondent pas bien aux inhibiteurs des tyrosines kinases. Pour les LMC en phase avancée, c'est différent. Les résultats avec les inhibiteurs des tyrosines kinases étant moindres, même si la greffe est plus risquée, elle demeure un traitement de choix, dans la mesure où le patient est relativement jeune, parce que la mortalité associée à la greffe augmente avec l'âge, et qu'il a un bon donneur, c'est-à-dire qu'il y a un donneur dans la famille qui est génétiquement compatible avec le patient. Nous avons donc abordé succinctement l'item greffe de cellules souches. Parlons maintenant du traitement à base d'interféron alpha. Le traitement à base d'interféron alpha était fort utilisé il y a une dizaine d'années, mais avec la venue des inhibiteurs des tyrosines kinases, on l'utilise de moins en moins. Le traitement avec l'interféron alpha est peu efficace en comparaison avec les traitements avec les inhibiteurs des tyrosines kinases. De plus, il est fastidieux parce qu'il nécessite des injections. Ce n'est pas des pilules, c'est des injections. Il cause aussi pas mal d'effets secondaires. Pas chez tous les patients, mais malheureusement chez grand nombre d'entre eux, il cause des effets secondaires qui peuvent altérer leur qualité de vie. Et puis, ce n'est pas un traitement curatif. De sorte qu'en 2010, l'interféron alpha est généralement réservé aux patients qui sont pas candidats à la greffe ou et qui ne peuvent pas recevoir d'inhibiteur de tyrosine kinase. Un exemple de ça, c'est les dames enceintes. La littérature sur l'utilisation des inhibiteurs de tyrosine kinase chez les dames enceintes indique qu'il faut l'utiliser avec grande prudence et en fait, on préfère recommander aux patients de ne pas utiliser d'inhibiteurs de tyrosine kinase en période de grossesse parce qu'il y a des risques potentiels pour les bébés. Alors, les dames enceintes ou en âge de procréer qui veulent avoir des enfants et qui ont une leucémie myéloïde chronique peuvent être traitées avec l'interféron alpha qui est un traitement sécuritaire en grossesse. Mais à l'extérieur de ce contexte et de contextes très spécifiques semblables, l'interféron alpha est maintenant peu utilisé en clinique. On arrive au grand chapitre des inhibiteurs des tyrosines kinases. On va surtout parler du premier, de l'imatinib ou du Glivec, parce que ça fait plus de temps qu'il est sur le marché. On a beaucoup d'études avec l'imatinib, beaucoup d'expériences avec l'imatinib, beaucoup de patients qui le prennent. Les nouveaux médicaments, notamment le nilotinib et le lofotinib, sont un peu plus récents. On a une littérature, par contre, qui grandit rapidement avec ces deux nouvelles molécules et nous allons donc en parler un peu aussi. Les inhibiteurs de tyrosine kinase, l'imatinib, le nilotinib, le dasatinib, le bosutinib, ce sont tous des molécules qui se ressemblent. Vous allez voir, ils fonctionnent tous de la même façon. Ce sont, en quelque sorte, des cousins. Ils ont la même structure de base. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, je reviens au schéma de tout à l'heure, où on a notre protéine anormale, le BCR-ABL, qui lie un substrat qui s'appelle de l'ATP et phosphoryle des substrats. Eh bien, de façon simple, les inhibiteurs de tyrosine kinase, ils bloquent l'activité de la protéine BCR-ABL parce qu'ils s'installent dans la petite poche que vous voyez là, dans la poche qui normalement sert à lier l'ATP, eh bien, l'inhibiteur de tyrosine kinase s'installe à la face de cette poche-là et compétitionne avec la liaison à l'ATP. Ce que vous voyez sur l'écran comme étant le STI-571, ça c'est l'autre nom pour l'imatinib ou le Glivec. Donc, les inhibiteurs de tyrosine kinase sont un traitement très ciblé parce qu'ils lient spécifiquement la protéine anormale et empêchent sa fonction en compétitionnant avec son ligand naturel qui serait l'ATP. L'imatinib ou le Glivec a vraiment changé l'histoire de la leucémie myéloïde chronique. C'est la première thérapie ciblée du cancer qui diminue la mortalité d'un cancer. Sur la diapositive, encore des données américaines, où on voit l'incidence des nouveaux cas de LMC et la mortalité. L'incidence en vert, la mortalité en rouge. On voit qu'à partir d'environ 2001, la mortalité reliée à la LMC a diminué. Et ceci est grandement attribuable à l'avenue des inhibiteurs de tyrosine kinase, principalement le Glivec et maintenant aussi les nouvelles molécules. La raison était qu'avant ça, les patients qui étaient jeunes en bonne santé avec un donneur apparenté étaient orientés vers la greffe, les patients plus âgés étaient orientés vers l'interféron, que plusieurs d'entre eux toléraient mal, et puis on n'avait pas beaucoup d'autres options de traitement. Alors, ceux qui n'étaient pas greffables et qui toléraient pas l'interféron allaient pas trop bien. Ils pouvaient en décider de leur maladie. Depuis l'avenue des inhibiteurs de tyrosine kinase, on a maintenant des pilules qui sont relativement bien tolérés par la majorité des patients et qui diminuent beaucoup la mortalité de cette maladie, telle qu'illustrée. Quand on parle d'imatinib ou de Gleevec, une étude dont on entend parler souvent, c'est l'étude IRIS. C'est une étude qui maintenant a un recul de plus de 8 ans, qui incluait plus de 500 patients traités avec l'imatinib. Sur cette diapositive, vous voyez la survie de ces patients en fonction du temps. Et ce qu'on constate, c'est que la survie estimée à 8 ans était de 85%, avec plus de 93% des patients restant en vie quand on considérait seulement les décès reliés à la LMC. En d'autres termes, si un patient est diagnostiqué avec une LMC et qu'il prend de l'imatinib, ses chances d'être en vie sont de plus de 85% au bout de 8 ans, et ses chances d'être en vie sans LMC sont de 93%. Donc, le traitement à base d'imatinib est un traitement particulièrement efficace qui a franchement amélioré la survie des patients avec une leucémie myéloïde chronique, puisque très peu de patients vont mourir de cette maladie s'ils sont traités avec un inhibiteur des tyrosines kinases. Les traitements avec les inhibiteurs des tyrosines kinases, dont l'imatinib ou le Gleevec, sont généralement efficaces, mais ne sont pas efficaces chez tous les patients. Un certain pourcentage de patients vont perdre leur réponse à la médication ou avoir une maladie qui se transforme en phase plus avancée malgré le fait qu'ils prennent les médicaments. C'est ce qui est illustré là. Vous avez le pourcentage de patients en ordonnée et puis les années. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un petit nombre de patients. Par exemple, la première année, autour de 3% qui ont des événements, un peu plus que 1% qui vont se transformer en phase accélérée ou blastique. C'est un peu plus la deuxième année, et puis ça finit par s'estomper après 5 ans. Toujours est-il qu'il y a un faible pourcentage des patients qui ne répond pas à l'imatinib tel qu'ils devraient répondre. Donc c'est un excellent médicament, mais il n'est pas infaillible. Le succès n'est donc pas de 100%. Si on considère tous les patients qui ne peuvent pas poursuivre l'imatinib, soit pour des raisons d'intolérance ou de résistance, c'est environ 20% des patients. Par intolérance, on entend des patients qui ont des effets secondaires suffisamment importants pour qu'ils ne veuillent pas prendre le médicament ou pour que leur médecin leur suggère d'arrêter le médicament. Et quand on parle de résistance, eh bien, on veut dire un patient qui, soit n'a pas du tout répondu au médicament, on parle de résistance primaire, un patient qui a répondu au médicament mais qui, à un moment donné, arrête de répondre, on parle de résistance secondaire, ou d'un patient qui a répondu mais pas comme il faut, donc une réponse sous-optimale selon des critères bien établis. Alors, il y a environ 20% des patients chez qui l'imatinib n'est pas la drogue de choix. Commençons par parler de ceux qui ont des effets secondaires et qui doivent arrêter les médicaments pour des raisons d'intolérance ou d'effets secondaires inacceptables. On revient avec l'étude IRIS. Ici, un tableau avec les effets indésirables hématologiques, donc sanguins et biochimiques aussi sanguins. Ils sont regroupés en effets secondaires de tout grade et grade 3 à 4. Grade 3 à 4 étant les effets secondaires qui sont vraiment sévères, qui généralement nécessitent l'arrêt du médicament et possiblement la reprise à des doses moindres. Alors si on se concentre sur la partie droite, on voit que les anémies sévères, les neutropénies, donc la diminution de globules blancs sévères, la thrombopénie, diminution des plaquettes sévères et l'élévation des ALT ou AST, qui sont des tests du foie, ben, les grades 3-4 ne sont pas si fréquents que ça. Par contre, les événements de tout grade, assez fréquente. Ce qui veut dire que la majorité des patients qui sont sous imatinib vont avoir des répercussions sur leurs paramètres sanguins, des répercussions néfastes, mais que pour la très grande majorité d'entre eux, ceci n'aura pas de répercussions ni sur leur vie, ni sur la poursuite des traitements. Par contre, pour un petit pourcentage de patients, eh bien, il faudra, en cours de traitement, réajuster les doses, possiblement arrêter temporairement le traitement pour qu'ils puissent continuer à le prendre. Pour ce qui est des effets secondaires non hématologiques, donc qui n'ont pas rapport avec du sang, eh bien, encore là, vous avez une colonne avec tous les grades, une colonne avec les grades 3-4 qui sont les grades sévères. Heureusement, comme vous voyez, les grades 3-4, ils sont pas fréquents, sont de l'ordre du 5% ou moins. Par contre, les effets secondaires de tout grade, eh bien, ils sont pas mal plus fréquents. Édème superficiel, qui est le premier item, c'est l'enflure. Bien des patients qui sont sous Glivec ou imatinib se plaignent d'enflure. L'enflure est principalement au niveau des yeux, des paupières, en fait, et des chevilles, mais il peut y avoir de l'enflure à d'autres endroits aussi. La grande majorité des patients ont un petit peu d'enflure, mais la quantité de patients qui ont de l'enflure importante est faible. Des nausées, des crampes musculaires, des douleurs musculosquelettiques, c'est relativement fréquent. C'est généralement bien contrôlé avec des anti-inflammatoires. Donc, des médicaments peuvent contrôler ces effets secondaires. Et les patients qui ont des effets secondaires de grade 3 et 4 sont rares. La diarrhée est un symptôme assez fréquent également, lui aussi se contrôlant assez bien avec des médicaments, des antidiarrhéiques. Les problèmes de peau sont un peu moins fréquents et se contrôlent aussi, dans la très vaste majorité des cas, assez facilement avec des crèmes topiques. Les bonnes nouvelles, c'est que bien que les effets secondaires avec l'imatinib soient assez fréquents, si on prend les effets secondaires de tous les grades, la majorité d'entre eux diminuent avec le sang. De sorte que les patients ont généralement beaucoup moins d'effets secondaires au bout d'une couple d'années de traitement. L'autre bonne nouvelle, c'est que dans les cas où les effets secondaires perdurent, et que le patient ne peut vraiment pas rester sous imatinib, eh bien, il y a des options. Les options, c'est notamment les deuxièmes générations, le nilotinib et le dasatinib. Et, heureusement, l'intolérance croisée est minime entre l'imatinib et les inhibiteurs tyrosine kinase de deuxième génération. Ça veut dire que si un patient ne tolère pas l'imatinib et qu'on le change au dasatinib ou au nilotinib, les risques qu'il ait le même effet secondaire avec ces médicaments différents est faible. Puis ce qui est illustré ici pour le nilotinib, on pourrait dire exactement la même chose avec le dasatinib, qui est l'autre médicament de deuxième génération. Alors, on voit ici une comparaison des effets secondaires de grade 3 ou 4 chez les patients intolérants à l'imatinib traités avec le nilotinib. Par exemple, des patients qui ont dû arrêter le traitement à l'imatinib ou au Glivec à cause d'un problème de peau, d'un rash, eh bien, il n'y en avait aucun qui avait le même effet secondaire à des grades importants, 3-4, avec le nilotinib. Même chose pour, si on regarde la rétention de liquide ou l'édème, des patients qui ont dû arrêter l'imatinib à cause de cet effet secondaire-là et qui ont été changés pour le nilotinib, ben, il n'y en a pas qui avaient le même effet secondaire de grade 3-4 avec le nilotinib. Bref. Les deuxièmes générations, nilotinib et dasatinib, ont un profil de toxicité qui est différent de l'imatinib et l'intolérance croisée est heureusement minime. Alors ça, c'était pour l'intolérance. On a dit qu'il y a 20% des patients chez qui l'imatinib n'était pas la bonne option de traitement, puis que parfois c'était pour l'intolérance, parfois c'était pour des raisons de résistance, c'est-à-dire qu'il répondait pas bien du tout, qu'il répondait mais arrêtait de répondre, ou qu'il répondait mais pas de façon optimale. Comment faire pour suivre la réponse des patients et trouver les cas de résistance? Eh bien, là, on vient à parler du monitoring. Les patients qui ont une leucémie myéloïde chronique doivent être suivis par des médecins qui ont une expertise et expérience dans le domaine parce qu'ils doivent être suivis de près pour vérifier ceux qui répondent bien et les départager de ceux qui répondent moins bien et ceux qui deviennent résistants. Parmi les outils pour monitoriser le patient, il y a bien sûr l'examen clinique, l'histoire du patient, mais il y a aussi des analyses sanguines. Parmi les analyses sanguines, il y a la formule sanguine qui est au fond le décompte des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes. Il y a aussi des tests un peu plus sophistiqués dont on va parler, qui s'appellent le karyotype, le FISH, le qPCR. Nous allons y revenir. Ces analyses sanguines permettent d'objectiver d'abord une réponse hématologique, ensuite une réponse cytogénétique et finalement une réponse moléculaire. La profondeur de la réponse est plus importante avec la réponse cytogénétique et moléculaire. En d'autres termes, quand un patient commence à bien répondre à son médicament, il atteint d'abord une réponse hématologique, ensuite une réponse cytogénétique, ensuite une réponse moléculaire. La formule sanguine permet de documenter une réponse hématologique. Le karyotype et le FISH permettent de documenter une réponse cytogénétique. Et le qPCR permet de documenter une réponse moléculaire. Les patients qui ont une leucémie myéloïde chronique devront se soumettre à tous ces examens au cours de l'évolution de leur maladie et de son traitement. Alors, la réponse hématologique, c'est quoi? C'est le premier seuil à atteindre. Essentiellement, c'est la normalisation des comptes sanguins, c'est-à-dire que la formule sanguine revient à peu près normale, et aussi que la RAT, chez ceux qui étaient gros, retourne à la normale. Donc, la réponse hématologique complète, c'est une normalisation ou une quasi-normalisation de la formule sanguine, ainsi qu'une renormalisation de la taille de la RAT. La réponse cytogénétique, qui est l'autre seuil à atteindre, eh bien, il y a différents degrés de réponse cytogénétique. Essentiellement, la réponse cytogénétique, c'est une quantification de combien de cellules conservent encore le chromosome Philadelphie. Alors, quelqu'un qui répond pas du tout aura pas de réponse cytogénétique. Elle va avoir plus de 95% de ses cellules qui contiennent encore le chromosome de Philadelphie, par opposition à une réponse cytogénétique complète où il n'y aura plus de chromosomes de Philadelphie détectables. Et puis, des réponses cytogénétiques partielles, où il y en aura un peu. Alors, la réponse cytogénétique est une réponse qui est meilleure qu'une réponse hématologique, qui vient après la réponse hématologique. Et puis, il y a des degrés de profondeur dans la réponse cytogénétique, une réponse complète étant l'objectif souhaité. Mais généralement, les patients passent par une réponse mineure, ensuite partielle et ensuite complète au fil de leur traitement. La réponse moléculaire, c'est une réponse encore plus fine, c'est-à-dire qu'une fois que le patient n'a plus de cellules évidentes avec le chromosome Philadelphie, il peut encore y avoir des traces de transcrit BCR-ABL, c'est-à-dire des traces du gène qui produit encore une protéine qui n'est pas tout à fait normale. La réponse moléculaire, c'est une réponse donc très, très fine. Et encore là, il y a des différents degrés de réponse moléculaire. On peut avoir une réponse moléculaire majeure ou une réponse moléculaire complète. La réponse moléculaire complète étant évidemment meilleure que celle majeure. Comment est-ce que les médecins suivent les patients qui ont une leucémie myéloïde chronique et que se donnent-ils comme objectif? Eh bien, il y a des critères pour ça. Il y a des critères canadiens. La dernière fois qu'ils ont été révisés, c'est en 2006, mais ils sont en cours de révision actuellement. On devrait avoir de nouveaux critères d'ici quelques mois. Il y a aussi les critères européens. Actuellement, au Canada, on se base sur les critères canadiens de 2006. Les critères canadiens de 2006 disent que les patients qui sont traitement avec un inhibiteur des tyrosines kinases et qui prennent la médication devraient avoir une réponse hématologique complète au bout de 3 mois. Ils devraient avoir une réponse cytogénétique majeure au bout de 12 mois, une réponse cytogénétique complète au bout de 18 mois, une réponse moléculaire majeure au bout de 24 mois. Alors, le médecin va suivre les patients, demander les examens appropriés, et puis, si le patient n'a pas atteint le seuil requis, eh bien, ça va lui donner un indice que le traitement n'est peut-être pas approprié pour ce patient, et en général, ceci va conduire à une modification du traitement ou carrément à un changement de traitement. Ici, les critères européens. Ils sont un petit peu plus serrés, un peu plus rigides que les critères canadiens. Les nouveaux critères canadiens vont probablement ressembler à ceux-là. On voit, par exemple, que à 12 mois, on veut une réponse cytogénétique complète et qu'à 18 mois, on veut une réponse moléculaire majeure. Au fond, tout ce que nous essayons de dire, c'est qu'il y a des critères spécifiques qui permettent aux médecins de suivre les patients et de s'assurer qu'ils atteignent les seuils désirés. Et si le patient ne les atteint pas, eh bien, ça justifie à ce moment-là des changements de traitement, soit d'augmentation de dose ou de changement de pilule. Alors, c'est quoi les outils pour documenter la réponse, pour la suivre et savoir si elle est optimale ou pas? Il y a différents outils. Les outils les plus standards, c'est le karyotype, le FISH et la PCR quantitative, ou le qPCR. D'abord, le karyotype. Alors, le karyotype, ce que c'est, au fond, c'est une photo des chromosomes. C'est une technique qui nécessite un échantillon de moelle osseuse. Donc, on ne peut pas faire de karyotype, sauf si on fait un examen de moelle au patient. Il y a toujours un karyotype au diagnostic, et il y en a parfois en cours de traitement, généralement une fois par année. Alors, on fait un examen de moelle osseuse, on analyse les chromosomes à l'intérieur des cellules. C'est un examen qui permet de documenter la translocation 9-22 qui est illustrée ici. C'est un très bon examen pour dépister la réponse cytogénétique. Par contre, elle a une faible sensibilité pour une maladie résiduelle minime. C'est-à-dire que c'est possible qu'on ne voit plus de chromosomes de Philadelphie, mais qu'il reste encore un peu de maladie. C'est ce que des examens plus poussés, dont le qPCR, vont permettre de dépister. Le FISH est une autre technique qui permet l'analyse génétique. C'est une technique qui est basée sur une technique de fluorescence. Essentiellement, on prend soit un échantillon de moelle, mais aussi un échantillon de sang. C'est ça l'avantage du FISH, on peut le faire à partir du sang. Et il y a une sonde, donc un marqueur qui va aller s'accrocher au chromosome 9, un autre sonde qui va aller s'accrocher sur le chromosome 22, et dans les cas où ils sont fusionnés, donc dans les cas où il y a un chromosome de Philadelphie, bien, on a une superposition d'images. Donc, dans l'image que vous voyez à votre droite, on voit qu'il y a une superposition du BCR-ABL, donc ça signe qu'il y a un chromosome de Philadelphie présent. Le FISH, donc, est une technique qu'on peut faire sur le sang périphérique, qui permet de documenter qu'il y a encore des chromosomes de Philadelphie présents. Le qPCR, c'était l'autre technique auquel j'ai fait allusion, c'est une méthode de détection moléculaire du BCR-ABL. Elle est un peu plus compliquée, donc elle requiert une grande expertise moléculaire. Je veux dire que c'est pas disponible dans tous les hôpitaux. Il y a des hôpitaux de référence où l'analyse est disponible. C'est plus sensible que le FISH, donc, ça permet de définir plus finement la réponse et ça permet aussi d'identifier les cas où il y a malheureusement résistance. En gros, le sang est analysé par une machine et la machine produit une courbe qui indique combien de cellules contiennent le transcrit anormal BCR-ABL. La pente de la courbe se traduit en chiffres. Et les chiffres quantifient la quantité de transcrit anormal. Les médecins qui rapportent des résultats de qPCR à leurs patients vont leur parler soit d'un résultat IS pour International Scale ou vont leur dire la réduction des transcrits BCR-ABL. C'est deux façons similaires de rapporter les mêmes résultats, mais le résultat IS a l'avantage il est une façon standardisée de rapporter les résultats qui permet la comparaison entre différents laboratoires. Donc, un patient pourrait avoir des prises de sang dans deux hôpitaux différents et les deux laboratoires pourraient avoir des résultats qui sont comparables entre eux. Alors, le résultat IS au départ est généralement de 100%, donc 100% étant une valeur anormale au diagnostic qui diminue en cours de traitement. Les transcrits BCR-ABL au diagnostic sont généralement très nombreux et en cours de traitement, ils diminuent d'un log, deux logs, trois logs. Cette illustration schématique va mettre les choses plus au clair. Alors, on illustre ici la réduction des transcrits BCR-ABL au cours de traitement. Vous voyez à votre gauche la réduction en log, qui était l'ancienne façon de parler de la réduction des transcrits BCR-ABL, et à droite, les chiffres selon le International Scale, 100, 10, 1, etc. Alors, la base, c'est au diagnostic. Donc, en haut, c'est le diagnostic. Le patient commence à prendre sa pilule, il répond. Il devrait avoir une réponse cytogénétique complète au bout de quelques mois. C'est la ligne en rouge. On est généralement à une réduction d'environ 2 logs à ce moment-là, ou un IS à 1%. Si le patient continue de prendre son médicament et continue de répondre, il va éventuellement atteindre une réponse moléculaire majeure, donc une réduction d'environ 3 logs, 0,1% sur le International Scale. Et éventuellement avoir une réponse moléculaire complète, c'est-à-dire la disparition de transcrits BCR-ABL, on n'est plus capable de les détecter. Ceci illustre donc qu'il y a une profondeur dans la réponse obtenue par les patients. On souhaite au départ qu'il y ait une réponse hématologique, ensuite une réponse cytogénétique et enfin une réponse moléculaire. Et généralement, quand les choses vont comme elles doivent aller, les patients atteignent une réponse après l'autre. Les outils dont on vient de parler, c'est les outils majeurs. Je ne mentionnerai que quelques mots sur d'autres outils d'appoint qui sont le dosage sanguin de l'imatinib et la recherche de mutations. D'abord, le dosage sanguin de l'imatinib. Alors, un patient qui prend la dose habituelle d'imatinib, qui pour un cas de leucémie myéloïde chronique, c'est 400 mg, il peut ne pas avoir la même concentration sanguine qu'un autre patient qui prend la même quantité de médicaments pour la même indication. Et ça, c'est à cause de différentes choses. C'est à cause du métabolisme du patient. C'est aussi parfois à cause des autres médicaments que le patient prend. Donc, le même 400 mg ne se traduit pas nécessairement par les mêmes niveaux plasmatiques chez tout le monde. C'est ce que cette diapositive-là illustre, où il y avait une étude avec 361 patients, tous prenant 400 mg de d'imatinib et certains patients avec des niveaux, des concentrations minimales d'imatinib qui étaient plus basses, d'autres plus élevées, ont vraiment une grande variabilité entre les individus. Et ceci peut être pertinent parce que si un patient qui prend 400 mg d'imatinib ne répond pas comme il est supposé de répondre, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que le médicament se rend à destination? Est-ce qu'il en a suffisamment au niveau du sang? Et le médecin pourrait vouloir doser l'imatinib au niveau du sang pour savoir si 400 mg, c'est vraiment la bonne dose que ça prend à son patient ou s'il en a pas assez. Voilà. Alors, ceci est pertinent parce que les réponses sont influencées par les concentrations sanguines. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les patients qui étaient dans le quartile inférieur, Q1, avaient des réponses un peu moindres que ceux qui étaient dans les quartiles supérieurs. Ce qui veut dire que si un patient prend sa dose d'imatinib, mais qu'il a un métabolisme ou des interactions médicamenteuses qui font en sorte que, lui, sa concentration dans son sang est inférieure, bien, il pourrait avoir de moins bons résultats que son voisin. Donc, le dosage de la concentration d'imatinib peut être pertinent dans certains cas, particulièrement chez ceux qui ne répondent pas de façon optimale au traitement. Et enfin, la recherche de mutations. Alors, la recherche de mutations, c'est la recherche de changements dans le code génétique. Ça se fait par séquençage. La recherche de mutations est généralement une avenue, quelque chose que les médecins vont demander quand le patient, il, soit il ne répond pas du tout à la médication ou il arrête de répondre alors qu'il y a déjà répondu. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on cherche s'il y a des changements génétiques qui ont entraîné un changement de protéine qui fait que la protéine tyrosine kinase qui répondait au traitement avec l'inhibiteur tyrosine kinase ne répond plus. Il y a beaucoup de mutations. On illustre ici une seule de ces mutations-là, qui est la mutation T315I. Cette mutation, donc ce changement dans le code génétique, entraîne une protéine qui est anormale. Donc, la tyrosine kinase, BCR-ABL, qui contient cette mutation-là, a une conformation anormale. Cette conformation anormale interfère avec la liaison à l'imatinib. Vous voyez l'imatinib en vert. Eh bien, les patients qui ont une mutation T315I, l'imatinib n'est plus capable de bloquer l'activité de la tyrosine kinase avec cette mutation. Donc, c'est des médicaments qui ne fonctionneront pas chez ces patients-là. La recherche de mutations peut donc s'avérer pertinente chez des patients qui ne répondent pas aux inhibiteurs de tyrosine kinase comme ils sont supposés. Que fait-on si un patient est intolérant ou résistant à l'imatinib? Eh bien, il y a différentes options. Généralement, on passe à un inhibiteur de tyrosine kinase de deuxième génération, c'est-à-dire qu'on cesse l'imatinib et on considère le dasatinib ou le nilotinib. Heureusement, environ la moitié des patients qui sont intolérants ou résistants vont répondre à un des inhibiteurs de tyrosine kinase de deuxième génération. Dans les cas très sélectionnés, on considère la greffe. La greffe demeure le seul traitement curatif, demeure un très bon choix chez des patients qui sont jeunes, particulièrement chez ceux qui ont progressé vers une phase plus avancée, parce que là, les inhibiteurs de tyrosine kinase sont moins bons, et chez ceux qui ont des mutations qui ne sont pas sensibles à l'inhibiteur de tyrosine kinase, dont la mutation T315I qu'on vient de voir. Voici les recommandations européennes, et les canadiennes vont sans doute y ressembler, sur quoi faire avec les patients en deuxième ligne. Comme vous voyez, ceux qui sont intolérants à l'imatinib, on suggère de changer pour une deuxième génération, le dasatinib, le nilotinib. Ceux qui ont un échec à l'imatinib, la même chose. On suggère de changer pour le dasatinib ou le nilotinib. Et chez certaines populations bien spécifiques, comme des patients qui progressent vers les phases accéléroblastiques, des patients qui sont porteurs de la mutation T315I, eh bien là, la greffe est une option intéressante. Que peut-on dire sur les inhibiteurs tyrosine kinase de deuxième génération? On a mentionné leur nom, dasatinib et nilotinib. Que peut-on dire à part ça? Ben, c'est tous des pilules. Tous se prennent donc de façon orale. Les deux nouvelles générations sont plus puissantes. In vitro, c'est-à-dire en laboratoire, le dasatinib est 300 fois plus puissant que l'imatinib et le nilotinib environ 30 fois. En clinique, les deux sont franchement très efficaces. Donc, les deux deuxième génération sont des médicaments qui sont par prise orale aussi, est plus efficace, plus puissant que l'imatinib. Comment choisir entre le dasatinib et le nilotinib? Eh bien, c'est généralement quelque chose qui se discute entre le médecin et le patient. Parmi les facteurs qui influencent la décision du médecin et du patient, c'est le profil d'effets secondaires connus avec ces deux nouvelles molécules, ainsi que si le patient a ou pas une mutation. Donc, certaines mutations sont plus sensibles au dasatinib qu'au nilotinib, et l'inverse est vrai. Et pour ce qui est des effets secondaires, eh bien, par exemple, un patient qui serait franchement diabétique avec un diabète pas très bien contrôlé, c'est probablement préférable de le mettre sous dasatinib au lieu de nilotinib parce que le nilotinib peut causer des hyperglycémies, des augmentations de sucre. À l'inverse, un patient qui aurait des gros problèmes de poumons, ben c'est peut-être mieux de les mettre sous nilotinib que dasatinib parce que le dasatinib peut, bien que rarement, causer de l'eau dans l'enveloppe du poumon. Bref, les comorbidités du patient, ses autres antécédents peuvent influencer le clinicien dans son choix de un des deux nouveaux médicaments. Qu'est-ce qui s'en vient dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique? Eh bien, il y a déjà eu des développements extraordinaires au cours des 10 dernières années, mais il y a ça, ça se poursuit. Il y a des développements de nouveaux médicaments qui ne sont pas des inhibiteurs de tyrosine kinase, qui seraient efficaces même dans les cas où les inhibiteurs de tyrosine kinase ne le sont pas, comme dans le cas de la mutation P315I. Il y a au moins un nouveau médicament qui est en étude pour cette indication spécifique. L'autre chose qui s'en vient, c'est possiblement que les inhibiteurs de tyrosine kinase de deuxième génération pourront de plus en plus être utilisés en première ligne. Alors, pour le moment, on sait qu'en laboratoire, ils sont franchement plus efficaces que l'imatinib. Qu'en est-il en clinique? Les données commencent à rentrer avec les deux nouvelles générations. Les données, les premières qui sont sorties sont celles pour le nilotinib qui ont été présentées cette année, en fait. Ici, on voit les taux de réponse moléculaire majeure obtenus avec l'imatinib versus le nilotinib à deux doses différentes. Et si on se concentre juste sur les résultats obtenus à 12 mois, on voit que les réponses moléculaires majeures sont supérieures dans les deux bras avec le nilotinib qu'avec l'imatinib. Cette étude, c'est une étude de première ligne. Donc, elle suggère que le nilotinib en première ligne est au moins aussi bon que l'imatinib, probablement en fait un peu supérieur. Ici, on illustre la progression en phase accélérée oblastique. Elle est déjà très faible avec l'imatinib, de l'ordre du 4%, mais elle est encore plus faible avec le nilotinib, du moins dans cette étude. Des données similaires seront probablement présentées pour le dasatinib. Alors, avec les deux nouvelles tyrosine kinase de deuxième génération, on pense que ce sont des médicaments qui sont au moins aussi efficaces que l'imatinib, possiblement un petit peu meilleurs. Et on termine avec une question que les patients posent parfois, voire souvent, qui est, on a maintenant d'excellents médicaments par prise orale, donc des pilules pour cette maladie. Est-ce qu'on peut arrêter de les prendre un jour? Si la maladie répond bien au traitement, est-ce qu'on peut, à un moment donné, arrêter de prendre la pilule? La réponse simple, c'est non. La réponse plus complète, c'est que il n'y a pas énormément de littérature, mais il y en a un peu qui suggère que les patients qui cessent de prendre leur inhibiteur de tyrosine kinase ont un risque quand même significatif de récidive de leur maladie. Dans la diapositive que vous voyez, c'est une étude où les patients prenaient du Glivec ou du imatinib depuis plus de 3 ans. Ils avaient une réponse moléculaire complète, donc une excellente réponse depuis au moins 2 ans, et ils ont arrêté le médicament. Ce que vous voyez en vert, le bras avec l'imatinib, vous voyez que au bout de 6 mois, la majorité des patients avaient récidivé. Donc, ils ont arrêté le médicament et la maladie est revenue. Il y a un certain pourcentage des patients chez qui la maladie n'est pas revenue. Donc, pour ceux chez qui la maladie est parvenue, c'était intéressant d'arrêter le médicament, mais pour la majorité d'entre eux, c'était une mauvaise idée. C'est pour ça que, basé sur ces données et d'autres qui ne sont pas montrées ici, ce n'est généralement pas du tout conseillé d'arrêter la médication. On suggère aux patients de les continuer à long terme parce que l'inhibiteur de tyrosine kinase ne guérit pas la LMC. Elle endort profondément la maladie quand elle fonctionne, mais ne l'enlève pas. Ces patients doivent prendre les médicaments, ne pas les arrêter, ne pas les interrompre. Et voilà, je termine ainsi cette présentation de ce soir. Je vous réfère à la source illustrée à la diapositive pour des informations complémentaires intéressantes au sujet de la leucémie myéloïde chronique.
Nous allons maintenant passer à la période de questions.
Première question. On dit, je suis une patiente du docteur Molica et j'apprécie ses conseils judicieux lors de ses cliniques sur rendez-vous à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. En fait, je réalise que ce n'était pas une question. Je prends donc la deuxième. Merci à cette patiente et je prends la deuxième. Quels sont les critères ou paramètres médicaux pour être considérés en rémission? Eh bien, tel que je l'ai mentionné au courant de la présentation, rémission est un terme assez vague. Rémission veut dire disparition apparente de la maladie. Le premier paramètre, c'est une normalisation des comptes sanguins, c'est-à-dire d'avoir des globules blancs, des plaquettes et une hémoglobine à peu près normale. On parle de rémission hématologique. Par contre, la rémission hématologique, ce n'est pas l'objectif ultime. C'est le premier objectif à atteindre en LMC. Il faut ensuite viser et atteindre une rémission cytogénétique, donc la disparition des chromosomes de Philadelphie, qui se documente, comme on a vu, soit par karyotype ou par FISH, et ensuite avoir une réponse moléculaire, donc avoir une disparition des transcripts BCR-ABL. Le pronostic des patients est d'autant meilleur que la réponse est plus profonde, c'est-à-dire que les patients qui sont en réponse moléculaire ont un pronostic beaucoup mieux que ceux qui sont juste en réponse hématologique. Et les critères ou paramètres pour être considérés en rémission, c'est ceux dont on a discuté. L'autre question que je vois apparaître à l'écran, c'est quelles conditions doivent prévaloir pour pouvoir passer de 400 mg de Glivec par jour à 100 mg par jour ou à 50 mg par jour. En fait, la réduction de dose de 400 mg à une dose moindre est généralement basée, on la fait pas sauf si le patient est intolérant à la dose de 400. Des augmentations de dose se font en cas de réponse sous-optimale, mais les diminutions de dose se font quasi exclusivement si le patient ne tolère pas la dose de 400. Alors, si le patient est à une dose de 400 mg et qu'il a des effets secondaires très importants, on pourrait considérer de diminuer la dose. En ce faisant, le clinicien doit être très prudent et suivre de très, très, très près la réponse du patient et s'assurer que le patient maintient sa bonne réponse. S'il y a une diminution de dose, parfois le dosage sanguin peut être utile. C'est-à-dire que parfois, certains patients, de par leur âge, leur métabolisme, leur interaction avec les médicaments, ne nécessitent pas nécessairement une dose de 400. Ils peuvent être corrects avec une dose moindre, mais c'est utile dans ces cas-là, il faut suivre la réponse de façon très minutieuse, puis deux, parfois d'avoir un dosage sanguin. Il est rare que les patients avec une LMC en phase chronique puissent maintenir une excellente réponse avec des doses aussi petites que 50 mg par jour. Ça existe, mais c'est rare. Donc, il n'y a pas vraiment de conditions qui justifient de passer de 400 mg à 100 mg. C'est généralement les effets secondaires du patient qui font que le clinicien pense réduire la dose. S'il le fait, c'est correct de le faire dans la mesure où il suit le patient de très, 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 très près. Et qu'il s'assure que même avec la réduction de dose, il atteint les critères de réponse recommandés par les instances canadiennes. Autre question que je vois sur l'écran, si l'imatinib contrôle efficacement la maladie, quelle peut être alors l'espérance de vie du patient s'il ne développe pas de résistance? Eh bien, vous avez vu ceci dans une des diapositives de l'étude IRIS. C'est-à-dire que vous avez vu que la survie était de plus de 85% à 8 ans, la survie de toute cause, mais certains de ces patients, les patients qui sont décédés, donc dans le 15%, sont décédés pour des raisons qui n'avaient pas rapport, qui n'avaient aucun lien avec la LMC. Donc ceux qui sont décédés pour des liens avec la LMC, vous avez vu que c'est environ 7%. Donc, une survie à 8 ans de plus de 85%, enfin de plus de 90% si on se restreint aux mortalités reliées à la leucémie myéloïde chronique. Donc, franchement, excellent pour la grande majorité des patients. Autre question. Les effets secondaires de l'imatinib, par exemple les nausées, la diarrhée et les crampes, apparaissent-ils seulement au début de la prise du médicament ou peuvent-ils survenir à n'importe quel moment? Alors, la majorité des patients qui ont ces effets secondaires l'ont au début. Pas tous, il y a des effets secondaires qui apparaissent plus tard, mais la majorité des patients qui ont à avoir ces effets secondaires l'ont au début de leur maladie. La majorité des effets secondaires aussi rentrent dans l'ordre au bout de 1 à 2 ans. Ils s'estompent, en tout cas, les effets secondaires s'estompent assez rapidement. Pour la majorité d'entre eux, ils s'estompent assez rapidement. Autre question, l'imatinib a-t-il un impact négatif sur les yeux. Par exemple, en provoquant des hémorragies ou sur le transport de l'oxygène dans le sang. Ils ne provoquent généralement pas d'hémorragie. Les machines ne provoquent généralement pas d'hémorragie. L'impact négatif sur les yeux, c'est sur les paupières, au fond. C'est pas sur les yeux comme ça. Il cause de l'enflure au niveau des paupières. Il pourrait causer une hémorragie dans les rares cas où ça fait descendre beaucoup les plaquettes. Mais ça arrive vraiment pas souvent. Sur le transport de l'oxygène dans le sang non plus, ça n'a généralement pas de grosses répercussions. La seule répercussion potentielle que je vois, c'est si le patient devient anémique. Hein. Si le fait d'utiliser de l'imatinib cause de l'anémie, ce qui arrive parfois, mais c'est rare que c'est une grosse anémie. Et puis là, le transport d'oxygène dans le sang pourrait être un peu diminué. Mais ceci est généralement un problème... un problème mineur, en fait, pas vraiment un problème qu'on voit clinique. Donc, en général, les yeux ne sont pas un grave problème, ni le transport de l'oxygène. Je ne crois pas avoir d'autres questions. J'ai un commentaire de quelqu'un qui disait belle présentation, mais je ne crois pas avoir d'autres questions.
Non, ceci met fin à la période de questions. Maintenant, cet événement a été rendu possible grâce à une subvention éducative de Novartis Pharmaceuticals Canada. J'aimerais maintenant remercier Dr. Monica de cette belle présentation que nous avons tous très appréciée ce soir et vous remercier d'avoir été avec nous. Alors, n'oubliez pas que cette présentation sera archivée pour une durée de une année sur le même lien, donc vous pourrez la réécouter ou la partager avec d'autres personnes. Alors, je vous remercie. Bonsoir.